Sur Radio Valois Mulcien, page d'histoire. Et s'il n'y avait plus de plantes? Question que se pose Jean-Marie Pelt dans son livre « Mes plus belles histoires de plantes ». Chapitre, aujourd'hui, « Profession » où « Les plantes cachent bien leur jeu ». À quoi servent les plantes? Quelle est leur fonction? Ou, dans la nature, leur profession? Question banale qui conduit à rappeler des évidences à l'alimentation par les céréales, les fruits et les légumes, à l'habillement grâce aux fibres textiles, à la santé par les médicaments, à la beauté par les parfums, sans oublier les bois d'œuvre, la pâte à papier, les matériaux de construction, les plantes ornementales, etc. Mais ce n'est pas la bonne réponse à la vraie question. Il ne s'agit pas de savoir à quoi les plantes nous servent, mais bien à quoi elles servent. Et l'idée qu'elles puissent servir à autre chose qu'à nous-mêmes ne nous a sans doute jamais effleurés. C'est que l'homme se prend obstinément pour le nombril du monde. Il voudrait toujours que la nature tourne autour de lui, comme s'il était le centre de l'univers. Or, les plantes étaient là bien avant nous. Les premières algues microscopiques flottaient déjà dans les océans il y a 3 milliards d'années. Or, nous ne sommes arrivés que plus tard, beaucoup plus tard. Il y a seulement 5 millions d'années. La question est donc celle-ci. À quoi servent les plantes dans la nature? Quel est leur rôle, leur fonction? Si l'on comparait la nature à une voiture, les plantes en seraient la carrosserie, le carburant et la batterie. La carrosserie, car elle forme, comme chacun peut voir, le corps même du monde vivant. L'essence et la batterie, car elles sont les générateurs d'énergie. Plus de plantes et la nature s'arrête. Plus d'essence et la voiture est en panne. Ce sont les plantes pourtant immobiles qui font courir les bêtes et les foules humaines, comme l'essence et la batterie font rouler les voitures. Comment les plantes fournissent-elles de l'énergie? Elles sont froides au toucher, tandis que notre corps, comme celui de tous les animaux à sang chaud, se maintient à une température très supérieure à celle de l'environnement, pour nous à 37 degrés. C'est donc nous qui pourrions fournir de l'énergie, ou tout au moins de la chaleur. Pas les plantes. Et pour en fournir davantage encore, il suffit de prendre froid. La fièvre qui s'ensuit nous transforme alors en radiateur. Cette augmentation de notre production énergétique peut d'ailleurs s'obtenir dans des conditions plus favorables. Il suffit de faire du sport pour transpirer. Dans les pires des situations, c'est bien cette seule chaleur humaine qui subsiste. On l'a vu dans les wagons de déportés, lorsque la vie ne tenait qu'à un fil. L'entassement où l'enlacement des corps restait la seule source énergétique, le seul gage de survie, et se blottir l'un contre l'autre fut de tout temps l'ultime remède à l'angoisse du désespoir. L'amour appelle aussi un cœur brûlant, et l'on sait les ravages que fait la flamme de la passion. L'énergie amoureuse s'exprimait au XVIIIe siècle en des termes plus poétiques encore. Les amants éprouvaient mutuellement des transports. Transports amoureux, s'entend, qui les menaient au septième ciel, bien avant la généralisation des transports en commun. Bref, pour la chaleur animale, nous voici convaincus. Mais d'où vient-elle? Tout simplement des aliments consommés, puis lentement consumés par l'organisme qui les brûle. C'est la fameuse combustion lente. celle des poils qui porte ce nom-là, ou encore des poils à catalyse. Mais les aliments nous ramènent inévitablement aux plantes, qu'il s'agisse de viande, c'est-à-dire d'animaux nourris de plantes, ou qu'il s'agisse directement de fruits, de graines ou de légumes. Pour chaque aliment, les manuels de diététique fournissent sa valeur calorique, c'est-à-dire la quantité de calories dégagée par la combustion d'une quantité déterminée de cet aliment. Les aliments sont donc les combustibles de l'organisme. Ils lui fournissent des calories qu'ils ont bien dû prendre quelque part. Mais où ? En ce domaine, les plantes dissimulent mieux leur jeu que nous. Elles ne sont pas chaudes au toucher et ressemblent plutôt, à température ambiante, aux animaux à sang froid. Elles ne rayonnent pas davantage la chaleur du soleil, comme le ferait une loupe, et, sur ce point, ne semble guère plus habile que nous à capter la chaleur solaire. Elles font même moins bien. Un bon coup de soleil nous fait rôtir, et nous voici de rechef cramoisis. Rien de tel chez les plantes qu'on n'a jamais vu prendre de coup de soleil. Enfin, à la différence des animaux, elles ne mangent rien. Tout au moins rien d'immédiatement palpable. D'où vient donc cette mystérieuse énergie que les plantes fournissent aux animaux, mais dont on ne voit pas comment elles ont pu elles-mêmes se la procurer? Il suffit pourtant d'embraser une bûche pour la mettre en évidence de façon spectaculaire. La flamme, le feu qui crépite, ne sont plus ceux de la passion, mais une réalité bien concrète, douloureusement tangible. Une combustion vive, capable d'un puissant apport énergétique. Or, comme le charbon provient de bois fossilisé et le gaz de la décomposition de cadavres de plantes dans le ventre de la terre, c'est toujours la plante, en définitive, qui apporte son énergie puissante, indispensable ou destructrice. Certes, l'on peut se passer de chauffage en été. C'est ce que font durant toute l'année les habitants des pays chauds qui ont la chance de s'approvisionner en énergie à une source inépuisable, le soleil. Or, c'est exactement ce que font les plantes. Là gît leur secret. Il n'y a en réalité aucune différence entre se chauffer au bois en hiver et au soleil en été. Sauf qu'en été, on procède directement et qu'en hiver, on passe par un capteur intermédiaire, le bois précisément. La plante capte, grâce à sa verte chlorophylle, les rayons lumineux du soleil et utilise cette énergie pour fabriquer sa propre substance, son corps végétal. C'est la photosynthèse. Telle est la tâche fondamentale et la mission première des plantes dans la nature. Grâce à cet apport d'énergie, les plantes réussissent à associer le gaz carbonique qu'elles puisent dans l'air par leurs feuilles et l'eau qu'elles puisent dans le sol par leurs racines pour fabriquer des matériaux divers, notamment des sucres, qui constitueront leur propre substance. C'est la photosynthèse qui accroît chaque année la circonférence d'un tronc d'arbre en y ajoutant un cerne de plus. Elle se déchaîne littéralement au printemps, recouvrant subitement et massivement les squelettes des arbres d'une myriade de feuilles. Ainsi, les plantes créent et stockent de la matière vivante grâce à l'énergie du soleil et peuvent restituer cette énergie lorsque cette matière est brûlée, soit par le feu, en combustion vive, soit par un organisme animal en combustion lente. Mais les plantes ne s'oublient pas pour autant. Cette énergie qu'elles peuvent fournir aux autres, elles l'utilisent en priorité pour leurs propres besoins. Ainsi, voit-on les graines soulever les pierres en germant, les racines lézarder les rochers ou renverser les murs, les lianes étrangleuses enserrer leur arbre support comme un boa, au point de l'étouffer et de le tuer. Autant de scènes de la vie végétale qui passent inaperçues, car elles se déroulent dans un mouvement si lent que seul le cinéma en accéléré peut nous les restituer dans toute leur spectaculaire beauté. Alors les plantes s'animent, bougent et manifestent une force peu commune, insoupçonnée. C'est précisément cette énergie-là qu'elles fournissent aux animaux qui les consomment et qui n'existent que par elles, car elles sont le point de départ de toutes les chaînes de la vie. C'est le grain qui nourrit la poule, à son tour dévoré par le renard, lui-même éventuellement taquiné par quelques parasites nichant dans son pelage. C'est l'herbe des savanes que broute l'antilope, elle-même dévorée par le lion. Ainsi, placée à la base de la pyramide alimentaire, qui est aussi la pyramide de la vie, les plantes ont dû exister bien avant les animaux et bien avant nous. Il n'y aurait ni animaux ni hommes sans les plantes, qui sont le lit et le nid de leur existence. Ce que des événements tragiques comme ceux du Sahel, par exemple, illustrent de manière sinistrement évidente. Aimer les plantes, les protéger, c'est aussi aimer les hommes, aimer les autres. Il est une manière d'aimer la nature qui est une forme authentique de la charité. De la charité entendue ici dans son sens fort de caritas, qui est, comme le dit le Larousse, une des idées les plus hautes et les plus fécondes de la morale. Domicile ou les enquêtes de Sherlock Holmes. Dans un ouvrage déjà ancien, mais qui reste le livre de chevet de tous les botanistes et de nombreux amateurs, l'abbé Fournier présente les 4217 espèces des quatre flores de France. Pourquoi pas tout simplement de France, puisque ce livre, qui est ce qu'on appelle une flore, répertorie toutes les espèces spontanées de notre territoire. C'est que chaque espèce ne pousse pas n'importe où. Chacune a son domicile. Il est aisé de constater que les plantes poussant sur les dunes du littoral ne poussent pas dans les plaines du nord ou de l'est du pays. Pas plus que les herbes du Var ou du Languedoc ne poussent sur les sommets alpins. Les quatre flores de France correspondent donc aux quatre grandes régions naturelles de la France. Les plaines, les montagnes, le bassin méditerranéen et le littoral. Que les plantes ne poussent pas n'importe où est une évidence qui tombe sous le sens. Si l'on veut composer un bouquet du 14 juillet, c'est dans un champ de céréales que l'on trouvera le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Ce serait une erreur de prétendre récolter de la myrtille, de la gentiane ou de la digitale ailleurs qu'en montagne. Quant aux roseaux ou aux massettes, chacun sait qu'ils frangent les bords des étangs ou des ruisseaux, généralement accompagnés des saules, des reines des prés ou des salicaires aux longues hampes de fleurs violacées. Il faudra enfin repartir en altitude pour repérer, sinon récolter, les delveisses ou le chardon bleu des Alpes. Ces plantes poussent dans l'environnement qui leur convient, au point qu'un œil avisé pourra parfaitement imaginer cet environnement s'il repère les plantes en question, car chacune recherche des conditions de vie qui lui sont le plus propices, de sorte que sa présence fournit de précieuses indications sur les caractéristiques du milieu dans lequel on la trouve. On pourrait imaginer un jeu télévisé du type « La chasse au trésor » ou « La course autour du monde » où l'on parachuterait un botaniste averti dans une quelconque région du monde en lui laissant tout ignorer de son point de chute. À la vue des plantes qu'il observerait, il devrait pouvoir dire dans quel pays il se trouve. Il faudrait certes choisir un excellent botaniste, ayant beaucoup voyagé, car on ne saurait se prétendre tel en ne connaissant que la flore française, qui représente guère plus du centième de la flore mondiale. Un seau d'eau dans la mer. Parachuté par exemple sur de hauts plateaux venteux, il repérerait des plantes étranges, hautes de 2 mètres environ, terminées par une grande rosette de feuilles qui leur donne l'allure d'un petit palmier. Leurs fleurs ressemblent à de petits soucis. Ces plantes très originales suffiraient à notre botaniste pour déduire qu'ils se trouvent sur les hauts plateaux des Andes ou sur les pentes montagneuses de l'Est africain. Il examinerait alors de plus près la plante en question et, observant qu'il s'agit d'un sénesson, il pencherait pour l'Afrique. Si, au contraire, il s'agit d'un espeletia, plante très voisine de la précédente, il pencherait pour l'Amérique latine. Pareil jeu reste à mettre en œuvre, qui exigerait un luxe de moyens assez considérable. L'isolement du botaniste pendant le voyage, son acheminement impromptu en des lieux mystérieux, le contact en direct avec un studio de télévision parisien, voilà qui n'est pas une mince affaire. Mais si l'on peut imaginer des scénarios moins aventureux, quoique tout aussi percutants, comme ces jeux à la Sherlock Holmes. Mais l'on peut imaginer des scénarios moins aventureux, quoique tout aussi percutants, comme ces jeux à la Sherlock Holmes. Le premier pourrait s'intituler « Meurtre en forêt ». Sherlock Holmes enquête sur un meurtre. Le cadavre a été découvert fortuitement dans une forêt. Une forêt de hêtres pour être plus précis, car ce détail a son importance. D'après les résultats de l'autopsie, la mort remonte à 3 ou 4 jours. Sherlock Holmes mène l'enquête et, à la suite de plusieurs interrogatoires, suspecte le mari d'une femme dont la victime semble bien avoir été l'amant. Bref, il s'agirait d'un drame de jalousie. Le mari jaloux aurait tenté de se débarrasser d'un rival et y serait parvenu. Sherlock se rend chez le couple dont il suspecte le mari afin de soumettre les protagonistes à un interrogatoire serré. La victime a été vue vivante pour la dernière fois le 14 juillet à 15h. En quête d'éventuels alibis, notre inspecteur demande au mari où il était ce jour-là, à cette heure-là. Je suis allé voir mes parents qui ont une ferme à la campagne. Sherlock Holmes lui demande alors s'il est allé dans quelque forêt. La réponse est naturellement négative. Mais le regard fouineur de l'inspecteur repère dans l'appartement un joli bouquet tricolore, bleuet, marguerite et coquelicot, additionné d'une petite plante à fleurs blanches et en clochette qu'il connaît bien. Les coquelicots perdent leurs pétales, ce qui laisse supposer qu'ils ont déjà quelques jours. Sherlock Holmes, l'air de ne pas y toucher, demande d'où vient ce très joli bouquet. « J'aime beaucoup ces fleurs sauvages », dit-il avec un apparent détachement. Le mari répond « Eh bien, justement, je les ai rapportées ce jour-là de chez mes parents parce que ma femme adore les fleurs des champs. » Il se réjouit de confirmer ainsi brillamment, de manière inattendue, son alibi. Mais Sherlock Holmes insiste. « Vous n'avez donc pas ce jour-là mis les pieds un seul instant dans une forêt ?» Le mari répond « Ah, évidemment non. D'ailleurs, ce bouquet en est bien la preuve, puisqu'il vient d'un grand champ de blé tout près de la ferme de mes parents. » Sherlock Holmes déclare alors « Je vous inculpe du meurtre de X. » Watson, comme à son habitude, est émerveillé par la performance de son maître et n'a bien entendu rien compris. Celui-ci, patient, lui explique ses déductions. « Élémentaire, mon cher Watson, la spérule odorante qui figure dans ce bouquet ne pousse qu'en forêt, plus particulièrement dans les forêts de hêtres, jamais ailleurs. Or, c'est précisément dans une hêtraie que le cadavre a été découvert. Et j'avais été frappé de constater qu'il y avait là de très nombreuses aspérules. C'est une plante que je connais bien. Son odeur très forte de tabac blond évoque l'Amsterdamer que je fume, vous le savez, à l'occasion. Et ma femme l'utilise de surcroît pour en fabriquer des liqueurs en la faisant macérer dans l'alcool. De plus, l'alibi de la visite à la ferme n'était pas suffisant, car nous n'avions aucun moyen de reconstituer avec précision l'emploi du temps, heure par heure, de ce monsieur. Le témoignage de ses parents, seule confirmation possible, étant naturellement suspect de partialité. Mais en niant être allé en forêt, alors même qu'il avait récolté des aspérules pour sa femme, ce qui, eu égard au meurtre perpétré dans la dite forêt, peut paraître le comble du cynisme. Il se démasquait, bel et bien. Thank you. Voici une seconde enquête de Sherlock Holmes. Nous sommes en Champagne. L'inspecteur enquête sur un décès suspect. Le médecin a refusé le permis d'inhumer car les symptômes du décès, tels qu'on les lui a relatés, lui paraissent étranges et ne correspondent à aucune maladie connue. Il s'est également étonné d'avoir été appelé si tard. Trop tard, en vérité, puisqu'à son arrivée, le malade était mort. Apparemment, après avoir beaucoup vomi et avoir pâti de très fortes diarrhées et de très violents maux de tête. Tout cela aurait pu n'être qu'une banale indigestion. Mais le patient, au dire de son entourage, succomba en moins d'une heure, après le déclenchement des symptômes. Bref, le médecin suspectait un empoisonnement. Toutefois, l'autopsie ne permit de détecter aucun poison dans le contenu intestinal ou dans le sang du cadavre. La victime est un homme marié et Sherlock Holmes enquête sur les mobiles et les modalités d'un meurtre éventuel. Mais cette fois, l'histoire est l'inverse de la précédente. L'épouse a un amant. Le mari est un homme très fortuné, mais également très avare. Sa femme ne bénéficie que fort chichement de cette fortune. Aussi, notre détective pense-t-il qu'il pourrait s'agir d'un meurtre crapuleux. L'amant ou l'épouse, ou les deux, ayant éliminé le mari gênant. Sherlock Holmes note que la mort est survenue peu après un repas, alors que la victime jusque-là était en parfaite santé. Il se rend donc chez l'épouse, veuve désormais, et l'interroge. Celle-ci l'accueille à l'entrée de son jardin et le conduit jusque dans sa petite maison, au demeurant fort coquette. Sherlock Holmes, dont le regard est vif et perçant, est surpris de découvrir au jardin plusieurs hampes de digital pourpre en fleurs, mais il ne laisse rien paraître de son étonnement. Il pense immédiatement au crime parfait, la digitale étant extrêmement toxique, mais ne laissant aucune trace susceptible d'être repérée à l'autopsie. Or, l'autopsie n'a précisément rien donné. Aussi décide-t-il de frapper un grand coup et de provoquer les aveux, car sa conviction est faite. Feignant de souffrir de la touffeur qui règne à l'intérieur de la maison et vantant la beauté du jardin, il convie la veuve, devenue désormais suspecte numéro un, à y poursuivre tranquillement leur conversation. Celle-ci accepte sans se méfier le moins du monde. Il s'arrête alors brusquement devant les digitales, s'accroupit, dégage de la terre et met à nu plusieurs pots de fleurs soigneusement camouflés, recouverts d'humus et de pierraille. Il les déterre et montre à la femme qu'un certain nombre de feuilles ont été arrachées à chacune des plantes. Celle-ci perd contenance et avoue avoir empoisonné son mari avec une soupe de feuilles de digital mélangée à des épinards. Elle ajoute même avoir dit à son mari que si les épinards étaient amers, c'est qu'elle n'avait pas eu le temps de les blanchir. Sherlock Holmes savait en effet que la digitale ne peut absolument pas vivre sur les sols calcaires de Champagne. Elle n'est à sa place que sur les sols granitiques des Vosges, du Massif central, de la Bretagne ou encore des Ardennes toutes proches. Ce qui l'avait frappé, c'était de trouver cette plante loin de ses domiciles normaux, et pourtant en pleine terre, et non pas empotée dans un sol rapporté. Comme il savait précisément qu'elle ne pouvait vivre en pleine terre champenoise, il en avait déduit que des pots devaient avoir été soigneusement enterrés et camouflés. De surcroît, l'absence de feuilles à la partie basse des tiges constituait une présomption supplémentaire, mais présomption n'est pas preuve. Il lui fallait des aveux. D'où cette mise en scène spectaculaire devant le cher Watson, éberlué une fois de plus, devant les performances botanico-policières de son brillant patron. La troisième affaire concerne un problème de pollution. Elle se situe dans une petite ville du sud-ouest de la France, tapie au fond d'une vallée encaissée, aux escarpements boisés. Le site est admirable et la vie quotidienne s'écoule paisiblement au rythme des saisons, comme si la révolution industrielle n'était jamais passée par là. Hélas, au cœur de cette France profonde, se pose, plus encore qu'ailleurs, le problème de l'emploi des jeunes condamnés à s'expatrier pour trouver du travail. Un important industriel parisien vient de construire à quelques kilomètres de là une résidence secondaire. Le conseil municipal le presse d'accepter le poste de maire afin de redonner vie à cette bourgade en déclin. Un pacte est conclu avec la population et le nouveau maire s'engage à créer un établissement industriel qui drainera la main-d'œuvre de toute la région, ce qui est fait promptement comme promis. L'équilibre traditionnel de la vallée s'en trouve profondément modifié. Des emplois sont créés. Des activités induites se développent et l'émigration n'est plus la seule issue pour les jeunes. Une association de défense de la nature et de l'environnement voit également le jour et mobilise la population. Elle exige que toute mesure soit prise pour éviter la dégradation du site et la pollution de la rivière, jusque-là miraculeusement préservée. Une fructueuse concertation s'engage. L'usine se fond discrètement dans le paysage sans l'altérer, tandis que des mesures anti-pollution, particulièrement sévères, sont prises. Malheureusement, en matière de pollution, il n'y a pas de secret. Ce qui ne peut être rejeté ici l'est généralement ailleurs. Dans l'air, en l'occurrence, selon le principe bien connu des transferts de pollution d'un milieu à l'autre. On s'aperçoit donc rapidement que si l'usine respecte à peu près le cadre physique de l'environnement et la qualité des eaux fluviales, elle rejette en revanche des quantités importantes de fumée nocive au fond de cette vallée encaissée où la dispersion par le vent se fait mal. Les espaces boisés environnants manifestent les premiers symptômes du mal des forêts qui s'étend rapidement. La concertation jusque-là cordiale entre l'association et l'industriel prend alors un ton plus aigre. Le maire conteste toute responsabilité dans le dépérissement de la forêt, au demeurant à peine perceptible selon lui et en aucune manière imputable aux activités de son entreprise. Les défenseurs de l'environnement apportent alors de nouveaux arguments. N'a-t-on pas constaté que, par certains jours de brouillard, deux personnes ont dû être hospitalisées, souffrant de difficultés respiratoires, sans doute en rapport avec la pollution atmosphérique. À bout d'arguments, et pour calmer le jeu, l'industriel se décide à installer des détecteurs de pollution en différents points de la ville et de son environnement, afin de mesurer en permanence l'impact des émissions de fumée émanant de l'usine. Ceci fonctionne durant 2 ans et l'association reçoit régulièrement un rapport prouvant que la pollution est modérée, nullement susceptible de provoquer ces atteintes à la forêt et à la santé de la pollution qu'elle avait dénoncée. Mais les leaders de l'association contestent ces chiffres. Une très vive polémique s'engage alors, dont la presse régionale, puis nationale, se fait l'écho. Y a-t-il trucage ou non des chiffres ? L'usine émet-elle, oui ou non, des quantités importantes d'anhydride sulfureux dans l'atmosphère ? Et si oui, combien ? Le microclimat de la vallée, l'orientation des vents, permettent-ils ou non une diffusion correcte de ces polluants toxiques ? L'industriel campe obstinément sur ses positions et l'association sur les siennes. La situation est bloquée. On apprend alors que le célèbre détective Sherlock Holmes prend quelques jours de vacances à quelques dizaines de kilomètres de là, après des enquêtes menées dans le nord de la France, celles que l'on connaît. Saisi par l'association, il accepte de jeter un coup d'œil sur la situation, mais en aucune façon de prendre officiellement l'affaire en main. Il est en vacances, un point, c'est tout. Tout au plus, accepte-t-il de modifier quelque peu l'itinéraire de ses promenades pour parcourir les bois dont l'état de santé fait l'objet de la polémique. On s'étonne de cette curieuse manière de procéder. On eût préféré l'entendre s'engager à soumettre l'industriel à la question, mais il n'en est pas question. L'affaire en reste là et la déception est grande parmi ceux qui croyaient voir en la personne du célèbre détective le sauveur d'une situation décidément bien compromise. Certes, on voit bien de temps en temps la silhouette de l'étrange petit homme parcourir d'un pas alerte les chemins forestiers qui bordent la vallée. On le voit même observer longuement le tronc des arbres, parfois à la loupe, accompagné de son fidèle Watson qui, visiblement, ne comprend pas quelle nouvelle lubie s'est emparée de son maître. Car Sherlock Holmes semble vouloir faire parler les arbres. On le voit remplir de notes son calepin sans que nul ne mesure à quoi rime cet étrange manège. Puis le célèbre détective sollicite un rendez-vous de l'industriel qui s'empresse de le lui accorder. Mieux vaut rester dans les bonnes grâces d'un homme aussi redoutable. Sans la moindre hésitation, Sherlock Holmes l'accuse d'être responsable du très haut degré de pollution atmosphérique, confirmant ainsi la thèse de l'Association de défense de l'environnement. Mais il ajoute qu'il ne cherche pas la guerre et qu'il est prêt à assumer une mission de médiateur, puisque dans cette affaire, sa participation reste informelle, non officielle. Vacances oblige. Abasourdi par ces affirmations péremptoires, le chef d'entreprise interroge le détective. Celui-ci lui explique que la meilleure méthode actuellement connue pour évaluer le degré de pollution de l'air est l'observation des lichens présents sur le tronc des arbres situés à proximité de la zone d'émission polluante. Ainsi, Sherlock Holmes a-t-il constaté qu'à proximité de la bourgade, tous les lichens, sans exception, ont disparu. Ce qui n'est en aucune manière le cas des petites villes avoisinantes où subsiste sur les troncs d'arbres une population lichénique riche et diversifiée. Mais ici, la situation est celle du centre des grandes villes où les arbres ne portent jamais que des algues formant sur les troncs des traînées vertes et larmoyantes où ruissellent les eaux de pluie, mais jamais de lichens. Au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'usine, certaines espèces de lichens réapparaissent, les plus résistantes d'abord. Mais il faut parcourir près d'une vingtaine de kilomètres pour retrouver la population normale des lichens présents sur les troncs d'arbres de cette région. Il ne fait donc aucun doute que l'élimination massive des lichens, particulièrement sensibles à la pollution atmosphérique, témoigne en faveur d'un haut degré de pollution. Bien plus, Sherlock Holmes s'est fait envoyer par ses collègues anglais des documents émanant de l'université de Nottingham, permettant de chiffrer la proportion d'anhydride sulfureux dans l'air en fonction de la nature des lichens observés. C'est ainsi que le détective, à la stupeur de l'industriel, déplie une carte où figure très exactement le niveau de pollution de chaque point où celui-ci avait installé ses détecteurs automatiques. Confondu, le chef d'entreprise avoue avoir quelque peu modéré les chiffres de ces détecteurs pour tempérer les craintes de l'Association de défense. Il constate que Sherlock Holmes a rétabli très précisément la vérité des chiffres par la seule observation des troncs d'arbres et il prend conscience des dégâts psychologiques que ne manquerait pas d'entraîner la publication de ce document, mettant en cause sa bonne foi et son honnêteté. La conversation s'achève dans le fumoir de style britannique du chef d'entreprise et sur un ton d'une grande aménité. Il est décidé que la mission de Sherlock Holmes prend fin à l'instant même, mais qu'en revanche, l'industriel fera installer des filtres qu'il importera du Japon à la base de la cheminée de l'usine, afin de réduire dans des proportions substantielles le volume des fumées polluantes. Sa mission accomplie et ses vacances terminées, le célèbre détective regagne l'Angleterre. L'industriel annonce alors un effort exceptionnel en faveur de la protection de l'environnement, convoque l'Association de défense et présente les mesures techniques qu'il s'apprête à mettre en œuvre pour diminuer les émissions de fumée nocives. Passant des paroles aux actes, il rétablit un climat d'amicale concertation entre les différents protagonistes de cette affaire qui s'achève par une réconciliation générale. La presse régionale, qui avait cartonné l'industriel suspect, rend compte de l'heureuse issue de l'affaire, tandis que Sherlock Holmes, à qui des coupures de presse sont envoyées, rit sous cap. Il se félicite d'avoir consacré une part de ses loisirs à s'initier à la botanique, science décidément très utile pour un grand détective britannique. Quant à Watson, il faut une fois encore tout lui expliquer, car il ne sait rien du domicile des Dickens, ni de leur amour immodéré de l'air pur. C'était Page d'Histoire, lue dans le livre de Jean-Marie Pelt, livre de poche pratique, Mes plus belles histoires de plantes. Librairie Artem Fayard, 1986. Accompagné par le String Quartet Andante non troppo allegro d'Alexandre Mosolov, 1900-1973. Sur Radio Valois-Mulsien, 93.7.